Philippiens, Philippiens chapitre, chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous avons considéré ces versets la semaine dernière. Philippiens chapitre 2. Et je vais lire à partir, Philippiens chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Philippiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 18 même, parce que la section va jusqu'au verset 18. Ainsi mes frères, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai ainsi me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain. Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous gardes de nous approcher de ta parole avec légèreté. Que tu nous gardes d'être animés avec un esprit blasé, une nonchalance. Je te prie, Seigneur, que tu nous rendes attentifs à ta parole. Garde chacun de nous, tu sais, notre facilité avec laquelle nos esprits peuvent s'en aller, ça et là. Nous ne voulons pas que le malin vienne et enlève la semence que tu veux planter dans nos cœurs. Nous voulons être attentifs et que ta parole nous pénètre, qu'elle produise en nous un fruit abondant. Oui, Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs encore aujourd'hui. Que la gloire de ta gloire. Amen. Nous avions considéré donc les versets 12 et les versets 13 la semaine dernière et nous avions montré que dans le processus de sanctification du croyant, il y a à la fois le croyant lui-même qui est appelé à œuvrer à son propre salut, mais il est appelé à le faire en considérant profondément le fait que c'est Dieu lui-même qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et on pourrait dire, on s'arrête là. On a compris qu'il faut que l'on travaille à sa sanctification et que l'on fasse des efforts. Mais la parole de Dieu va souvent plus loin que les grands principes, les grandes lois fondamentales. Elle va parfois jusque dans les petits détails. Et ici, l'apôtre Paul va un peu plus loin dans ce qu'il, si vous voulez, il va détailler, il va expliquer ce que c'est que cette œuvre de sanctification à laquelle le croyant est appelé. Au verset 14, c'est une exhortation extrêmement pratique. Hein. Autant, il dit au verset 12, bien-aimés, travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. Ici, au verset 14, il dit quelque chose de bien spécifique. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et ça, c'est l'exhortation majeure de cette partie que nous avons lue ici. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors on pourrait dire, bon, ok, c'est bien, on a compris, ça, c'est pas murmurer, c'est pas hésiter ou contester, c'est bien, on tourne la page et on passe à la suite. Mais il faudrait peut-être se poser la question de ce que c'est que murmurer. Et si la parole de Dieu nous donne un commandement, il est important que nous considérions ce commandement parce que la Bible dit que Dieu donne ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et pour observer avec soin ces ordonnances, il faut considérer avec soin ce qu'il dit. Nous voulons prendre un peu de temps pour considérer ces choses ce matin. Qu'est-ce que murmurer? Essayez de penser dans votre tête la définition que vous avez du murmure. Et je vais vous lire juste ce que dit une des définitions que donne le Larousse. Il dit que c'est faire entendre une sourde protestation, un grognement peu explicite de mécontentement. Quand on dit par exemple que la foule murmura contre l'orateur, c'est une espèce de bruit sourd, etc. Dans le texte qui nous intéresse ici, le mot qui est traduit par murmurer, c'est gongosmos. C'est un mot qui sonne de manière glutturale et c'est un mot qui, on dit que ce sont des onomatopées, c'est des mots qui sont donnés et qui sont proches du son qu'ils produisent. Quelqu'un qui murmure, il va comme ça, il parle dans sa barbe, de temps en temps, il... Vous voyez, donc ça fait une espèce de gongosmos, de bruit particulier et c'est ce que le texte veut dire ici. On pourrait le dire que c'est grommelé. On trouve des définitions comme grogner. Dire quelque chose tout bas, exprimer un mécontentement. Et donc c'est cette définition que donne le Larousse et qui est proche de la définition que nous avons ici. Mais voici encore quelques synonymes. Bougonner, geindre, grogner, grommeler, gronder marronné, hein, je n'avais jamais entendu ça. Maugréer, un terme que vous connaissez bien. Râler, ça on connaît bien. Hein. En France, on dit qu'on aime râler, n'est-ce pas? Ronchonner, rouscailler, rouspéter, tout ça, ça peut être mis et considéré comme l'effet de murmurer. Et l'apôtre Paul dit, faites toutes choses sans grogner, sans bougonner, sans vous plaindre, sans vaincre, etc. Et il dit, faites-le sans murmure et sans hésitation. Et le mot qui est traduit par hésitation, c'est un mot duquel on a tiré dans notre langue française le mot dialogue. C'est dialogismos, et donc c'est avoir des délibérations internes, des contestations. Alors c'est un mot qu'on aime en français, on aime bien parler de dialogue. On dit souvent qu'il faut que le patronat reprenne le dialogue avec le syndicat. Hein. Il faut que les deux parties dialoguent. Mais du point de vue de Dieu, c'est pas un mot qui a toujours une connotation positive, parce que Dieu, on ne dialogue pas avec Dieu. On va voir que ce dont Paul parle ici, c'est surtout l'attitude du croyant dans sa relation avec Dieu. Alors, si ça peut paraître bien comme que l'on dialogue quand on est entre humains, ça n'est pas une bonne chose, parce que Dieu, ses commandements ne sont pas donnés pour qu'on puisse les discuter. Et on ne discute pas non plus les circonstances dans lesquelles il nous place. Et donc, c'est ça que Paul dit ici, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors, je voudrais considérer plusieurs choses ce matin. Premièrement, je vais parler de l'esprit de murmure et de contestation, avec en gardant comme définition ce qu'on a donné là pour murmure et contestation, le fait de se plaindre, de gêner, de bougonner et puis de vouloir toujours discuter ou contester les choses. Donc, premièrement, l'esprit de murmure et de contestation est universellement répandu. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui te dise, moi, ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Je ne murmure pas, je ne bougonne pas, je suis toujours comme il faut. Il concerne tout type de personnes, du plus petit jusqu'au plus grand. Si vous avez des enfants en bas âge, même très bas âge, ils savent déjà murmurer. Ils savent déjà montrer leur mécontentement. Hein, faire des sons qui montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que maman ou papa a décidé. Et bien sûr, les plus grands aussi murmurent. Hein. On va manifester, parfois c'est une sorte de murmure et de mécontentement que l'on exprime. Toutes les nationalités, toutes les catégories de personnes sont concernées. Je ne crois pas qu'il y ait un pays avec lequel on ne murmure pas. Même si la France est appelée championne du monde de la râle, des râleurs, mais je crois que tous les pays, dans tous les endroits du globe, les gens sont concernés par cela, du plus petit jusqu'au plus grand. On se plaint et c'est quelque chose qui concerne tout le monde. L'apôtre Jacques dit par exemple, même les chrétiens aussi se plaignent entre eux, se plaignent les uns des autres. Et l'apôtre Jacques 5 verset 9 dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Donc s'il dit cela, c'est que les chrétiens se plaignent les uns les autres. Si l'apôtre Paul dit ici, faites tout sans murmure ni hésitation, c'est parce que certainement dans ce contexte aussi, il y a des chrétiens qui murmuraient les uns aux autres, murmuraient par rapport aux situations qu'ils vivaient. Donc le murmure est une expérience qui est facile à atteindre par tous les humains. Le murmure affecte tout type de service. L'apôtre dit ici, faites tout sans murmure, toute chose, sans murmure ni hésitation. Ça veut dire que on peut faire toute chose avec murmure et hésitation. On peut prêcher avec murmure et hésitation. On peut servir dans l'église avec murmure et hésitation. On peut faire le ménage avec murmure et hésitation. Il n'y a rien qui puisse... il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire où là c'est pas possible de le faire avec murmure et hésitation. On peut tout faire avec murmure et hésitation. C'est pour ça que Paul dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. L'apôtre Pierre, par exemple, il parle de l'hospitalité. C'est quelque chose qui est agréable, n'est-ce pas, l'hospitalité. Ouvrir son foyer pour quelqu'un, pour accueillir quelqu'un. Et bien l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 4, verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Parce qu'il y avait des gens probablement qui le faisaient avec murmure. Oui, c'est toujours moi, c'est toujours à moi qu'on demande d'accueillir les gens. Il y a aussi d'autres personnes, on pourrait leur demander. Ouais, imagine, on peut agir comme ça. Bon, je vais le faire, mais franchement, je ne suis pas content. On a exercé l'hospitalité. On a ouvert notre foyer à quelqu'un. Mais on l'a fait en murmurant quand on le fait comme cela. Quand on pense que quelqu'un d'autre aurait pu le faire, qu'on aurait pu demander la chose à quelqu'un d'autre. Et ainsi, je ne veux pas multiplier les exemples, mais imaginez, quel que soit le service que l'on accomplit, on peut le faire avec en murmurant et avec contestation. Donc l'esprit de murmure et de contestation aussi affecte tout type de service. Et puis je voudrais dire aussi que tout est sujet à murmure. Tout est sujet à murmure. Donc on peut servir avec murmure, mais quand on considère notre vie, on peut voir que tout est sujet à murmure. Si on prend l'exemple du peuple d'Israël, ils ont murmuré parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron parce qu'il n'y avait pas de viande à manger. Ils ont murmuré parce qu'ils ont trouvé que c'était difficile de rentrer dans le pays de Canaan. Ils ont murmuré parce qu'ils avaient de la manne et qu'ils voulaient autre chose. Et le peuple est caractérisé par ces murmures. Mais si on parle de nous-mêmes, on murmure parce que le train n'arrive pas à l'heure. On murmure parce qu'il faut faire la queue au bureau de poste. Ou parce que le code barre n'est pas sur le produit et puis finalement ça met de l'embouteillage à la... On murmure parce qu'on est dans les embouteillages. On murmure parce que la nourriture est trop chaude, trop froide, trop salée, pas assez salée. On murmure parce qu'on n'aime pas les légumes qui ont été préparés pour le dîner. On murmure parce que l'ordinateur rame un peu. On murmure parce que la météo est mauvaise à Paris. On murmure à cause du frère, à cause de la sœur. Et je pense qu'on peut multiplier comme ça les hommes. Si on est honnête, on va voir que l'on murmure dans tout type de circonstances. Et ça, donc ça montre bien que le murmure et l'esprit de contestation est quelque chose qui est universellement répandu pour tous les gens, dans tous les services et dans toutes les situations. C'est un mal, on pourrait dire, universel, naturel et spontané. Il n'y a pas besoin de faire des efforts pour murmurer. On n'a pas besoin de faire des efforts. Ça sort très vite. Et très naturellement. Et c'est ce qu'on voit dans l'exemple ici du peuple d'Israël. Je ne vais pas lire tous les exemples qui sont donnés. Mais Moïse souligne profondément cette attitude. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il nous dit, ne murmurez pas comme ils ont murmuré. 1 Corinthiens 10, 10, il parle du fait que le peuple d'Israël a murmuré et dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et ne soyez pas comme eux, n'ayez pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Et ne murmurez pas comme ils ont murmuré. Et c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Et si l'apôtre Paul écrit cela ici aux Philippiens, c'est qu'eux aussi devaient avoir des difficultés avec cela. Et si le Seigneur a consigné ces choses et a conservé ces choses par son esprit dans la parole, c'est parce que nous aussi, nous devons admettre et reconnaître que nous avons de grandes difficultés avec cela. On fait beaucoup d'efforts pour ne pas mentir, pour ne pas regarder n'importe quoi, pour ne pas peut-être parfois s'exprimer de n'importe quelle manière. Mais on fait très peu d'efforts pour ne pas murmurer. On se laisse souvent aller au murmure. Il faut être honnête et le reconnaître. Deuxième chose que je voudrais souligner sur cette histoire, c'est que selon ce que l'apôtre Paul dit ici, ce que le Saint-Esprit dit au travers de l'apôtre Paul ici, c'est que l'esprit de murmure et de contestation est un obstacle à la sanctification du croyant. L'esprit de murmure et de contestation est un obstacle à la sanctification du croyant. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Je reprends verset 14 et verset 15. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Il dit encore irréprochables. Il dit, quelle est la raison pour laquelle il dit de faire toutes choses sans murmure ni hésitation? Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Autrement dit, ce caractère irréprochable, cette pureté qui est recherchée, cette sanctification qui est recherchée ici, eh bien, si je fais les choses en murmurant, eh bien, je vais être un obstacle à ma propre sanctification. Je ne peux pas à la fois œuvrer à ma propre sanctification et en même temps faire les choses avec murmure, en murmurant et en contestant. On voit ici que le caractère irréprochable et pur, c'est l'objectif divin dans la vie du croyant. Dieu veut amener ses enfants au caractère pur et irréprochable. Et on peut lire ça à travers l'Écriture. Juste quelques exemples. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul dit, en parlant de Dieu, dit, « Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. » À l'église des Thessaloniciens, Thessaloniciens 3, versets 12 et 13, l'apôtre Paul écrit, « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. » Voilà, Dieu, il prie Dieu pour que Dieu vous donne de l'amour les uns pour les autres, afin que Dieu affermisse vos cœurs et que vos cœurs deviennent irréprochables, purs, qu'ils deviennent irréprochables dans la sainteté. Comment on dit cette sanctification, cette sainteté, ce caractère irréprochable et pur, c'est le projet de Dieu dans la vie de ceux qu'il rachète. Dieu ne nous rachète pas pour nous laisser comme cela sur le bord du chemin. La Bible dit que le projet de son livre Romains chapitre 8, verset 29, il dit que Dieu nous a destinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Il veut nous faire paraître devant lui, Éphésiens chapitre 5, quand il parle de la relation entre le mari et la femme, il dit bien que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, puis il dit afin de la sanctifier par l'eau de la parole et de faire paraître devant lui cette Église sans tache, sans défaut, ni ride, ni rien de semblable. Il veut la rendre irréprochable pour le jour de Christ. Donc ce caractère de pureté et d'irréprochabilité, ça fait du sens, eh bien, c'est le projet de Dieu dans la vie du croyant. La sainteté corporelle, et le projet de Dieu dans la vie du croyant. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Autrement dit, Dieu poursuit ce but dans la vie du croyant, la sainteté corporelle. Et l'apôtre Paul dit même aux Éphésiens que l'objectif de l'élection, c'est-à-dire le fait que Dieu a choisi des êtres pour les sauver, c'est la sainteté. 1 Éphésiens 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. » Encore la même pensée ici. Il nous a choisis, il nous a élus pour que nous soyons mis à part pour lui, mais dans la sainteté et dans le caractère irréprochable. Et donc, le caractère irréprochable et pur est un objectif divin dans la vie du croyant. On pourrait lire plein d'autres passages, mais je pense que ceux-là sont suffisants. Et cela nous montre que l'enseignement que Paul donne ici aux Philippiens, c'est que murmurer et contester sont un obstacle à cette sanctification, parce qu'ils vont dans le sens contraire de ce que Dieu veut dans notre vie. Les circonstances difficiles sont les instruments que Dieu utilise à cette fin de sanctification. Donc Dieu a un projet de sanctification, mais comment il le fait? Eh bien, il utilise toutes les circonstances de notre vie, celles qui nous paraissent heureuses et celles qui nous paraissent malheureuses aussi. Hein. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et l'Épître aux Hébreux le dit très clairement. Il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien et il ajoute afin que nous participions à sa sainteté. C'est ça? Il dit que Dieu nous châtie, qu'il permet que l'on soit dans des circonstances particulières, parfois douloureuses, parfois dans lesquels nous n'aurions pas aimé être, avec le but de nous faire participants de sa sainteté. Donc non seulement il poursuit ce but dans notre vie, mais il nous place dans des circonstances, d'accord, et il utilise des circonstances tragiques ou difficiles, ou parfois même il nous châtie, hein, comme il a châtié son peuple d'Israël, pour nous rendre plus saints. Et pour que nous puissions participer à sa sainteté. Et donc, il nous faut voir les circonstances comme des instruments dans la main de Dieu. Le Seigneur, il châtie, la Bible dit, ce qu'il aime. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Le peuple d'Israël disait, oui, c'est pour nous tuer que Dieu nous a amenés dans ce désert. C'est pour nous faire mourir qu'il nous a amenés. Est-ce qu'il n'y avait pas des sépulcres en Égypte? On aurait préféré mourir en Égypte. C'est vrai que Dieu les faisait passer par des situations difficiles, mais c'était pour les rendre participants à sa sainteté. Et quand Dieu nous fait passer par des circonstances difficiles, ce n'est pas pour nous faire du tort, c'est pour nous rendre participants à sa sainteté, parce qu'il poursuit ce but dans notre vie. Et donc, je voudrais dire que quand on murmure et quand on conteste ici, eh bien cela crée un obstacle à la sanctification parce que cela manifeste un refus de la méthode que Dieu utilise pour nous rendre. On rouspète contre les circonstances. Mais les circonstances sont les instruments de Dieu. Donc si on rouspète contre les circonstances, c'est qu'on rouspète contre ce que Dieu a prévu dans ma propre vie pour m'amener à la sanctification. Et par ce fait, donc, on devient un obstacle même à notre propre sanctification. Jacques disait, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que les épreuves de la foi produisent la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Vous voyez ici, il dit, voilà, il y a une œuvre qui doit être faite. Il faut qu'elle soit faite. Il y a une œuvre de perfection qui doit être faite. Il faut qu'elle soit faite. Alors acceptez avec joie les circonstances parfois éprouvantes dans lesquelles Dieu vous place, sachant que ces circonstances sont des instruments que Dieu coordonne ensemble pour accomplir son œuvre de sanctification dans votre propre vie. Quand on murmure et que l'on se plaint de son sort et de ses circonstances, on refuse les moyens qui sont voulus par Dieu, le Dieu omniscient, le Dieu sage, le Dieu plein d'amour et le Dieu qui agit selon sa grâce. Imaginez, vous pouvez imaginer un malade qui est sur le lit d'hôpital, après être opéré, il a un problème, une tumeur, ça commence à s'étendre dans son corps et les médecins veulent extirper, les chirurgiens veulent extirper cette tumeur pour garder la sainteté, n'est-ce pas ? On pourrait dire du reste du corps. Le malade, il veut bien aussi. Mais quand il voit arriver le bistouri, il voit arriver le scalpel et tout ça, il dit non, pas ça. Je refuse que vous utilisiez ces instruments. Bien, il sera un obstacle à sa propre guérison. Parce que ces instruments qui font mal sont précisément ces instruments que la main experte du chirurgien va utiliser pour extirper ce qui est mauvais. Et les instruments qui, parfois, les circonstances que parfois nous trouvons douloureuses, qui nous font mal, sont souvent celles-là que Dieu utilise pour œuvrer en nous, pour extirper le mal, pour nous rendre saints. Donc quand on murmure contre ces circonstances, eh bien, on se dresse, si vous voulez, contre l'objectif de Dieu, on refuse qu'il agisse selon sa sagesse à notre égard. Faites toutes choses donc sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez purs et irréprochables. Parce que c'est le but de Dieu, parce que les circonstances dans lesquelles il nous place sont les instruments qu'il utilise à cette fin. Et parce que si j'agis en contestant et en murmurant, eh bien je m'oppose. À cette œuvre de Dieu dans ma vie. Et puis troisièmement, l'esprit de murmure et de contestation anéantit l'efficacité du témoignage dans le monde. C'est ce que l'apôtre Paul montre ici. Regardez verset 15 encore. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, mais où ? Au milieu d'une génération perverse et corrompu parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux ou dans le monde. Il dit, voilà, agissez sans murmure ni contestation pour que, voilà, Dieu puisse agir en vous et vous utiliser comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu. L'absence, si vous voulez, de murmure et de contestation participe, on pourrait dire, à l'efficacité du témoignage du croyant, selon ce que Paul dit ici. Mais le chrétien vit au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme cela que Dieu décrit le monde qui nous entoure. Alors nous pouvons le trouver gentil, nous pouvons le trouver beau, nous pouvons le trouver pas si mauvais que ça. Mais il nous faut apprendre à le considérer comme Dieu le considère. L'apôtre Paul dit ici que Dieu considère le monde comme une génération perverse et corrompue. C'est ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 32, verset 2. C'est ce que Jésus a utilisé comme expression quand il était là, Matthieu 17, verset 17. On ne va pas le lire, mais. Et puis l'apôtre Pierre aussi, à la Pentecôte, disait sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Donc le monde qui ne connaît pas Dieu est un monde pervers, une génération perverse et corrompue. Il est important que nous considérions ces choses. Mais c'est en même temps le monde dans lequel le chrétien est amené à vivre. Dans sa prière, Jean chapitre 17, Jésus dit ceci, il dit « Je ne te prie pas, que tu pries pour ses disciples, de les ôter du monde, Jean 17 verset 15, mais de les préserver du mal. » Je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc on peut être dans le monde sans être du monde, sans vivre selon les principes du monde. Et Dieu place ses enfants dans le monde. Il les veut dans le monde. Il ne veut pas que nous vivions en ermite isolé quelque part. Il veut que nous vivions dans le monde, que nous allons travailler, que nous côtoyons les gens du monde. Mais Il veut que nous soyons dans ce monde comme des flambeaux. Il veut que nous soyons irréprochables et purs au milieu de la génération perverse et corrompue. Donc la volonté de Dieu est que le chrétien brille dans cette génération. Vous êtes, disait Jésus, la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Donc les murmures et hésitations privent le monde de la lumière des flambeaux. Et c'est la volonté de Dieu que les croyants soient comme des flambeaux dans ce monde. Et le monde est privé à cause du fait que les chrétiens murmurent et contestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne montrent pas de différence. Quand on murmure et que l'on conteste, on fait comme les gens du monde. Et donc on ne montre pas de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et le croyant est appelé à manifester une différence dans sa vie. Si on bougonne comme tout le monde bougonne, eh bien, les gens auront des choses à nous dire. Si regardez l'apôtre Paul, il doit être irréprochable. C'est quoi le sens d'irréprochable? Irréprochable, ça veut dire d'être sans défaut et sans tache. Ne rien avoir qui puisse constituer une accusation de la part du monde. Si le monde dit, ah mais toi, Albert, on peut t'accuser de ça, 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 ça. Et si ce sont des accusations justes, alors là, on n'est pas irréprochable. C'est-à-dire, si le monde peut trouver quelque chose de mal dans notre vie et nous accuser avec l'accusation, elle est fondée, eh bien, on n'est pas dans ce sens irréprochable. Irréprochable, ce n'est pas être sans péché. D'accord? Tous, nous péchons. Mais l'enfant de Dieu, quand il pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse son péché. Il demande pardon à Dieu. Il règle les situations. Si, par exemple, on a des situations avec des conflits les uns avec les autres et qu'on n'a pas réglé la chose, le monde peut nous dire, mais tu as un truc que tu n'as pas réglé. On n'est pas irréprochable parce que la chose n'a pas été réglée. Ce n'est pas le fait d'avoir eu le conflit qui est irréprochable. C'est le fait d'avoir la chose et de ne pas la régler. De pécher, de ne pas confesser le péché. D'accord? D'offenser et de ne pas demander pardon. C'est cela qui est la chose qui devient la chose irréprochable. Donc si le monde, si quand on est irréprochable, ça veut dire qu'on doit être sans prise pour le monde. Un peu comme Daniel. Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel ici? En Daniel chapitre 4, chapitre 6, il est dit que les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune accusation, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est ça que ça veut dire. Alors, Daniel n'est pas un homme parfait. Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Par Christ. Mais il vivait de manière irréprochable. Ça veut dire qu'il faisait extrêmement attention pour ne pas laisser, comme l'apôtre Paul dit, au diable les occasions de ne pas lui laisser prise sur lui, ne pas laisser au monde des choses qu'il pourrait condamné dans sa propre vie. Alors bien sûr, le monde peut toujours condamner le chrétien en disant des choses. L'apôtre Pierre le dit. Il dit, ayez au milieu du païen une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc le monde peut toujours trouver des choses à dire. S'il nous critique pour notre foi, bon, pas grave. Mais s'il nous critique pour un vol, et que c'est vrai, là on n'est pas irréprochable. S'ils nous critiquent pour des paroles grossières, et que c'est vrai, là nous ne sommes pas irréprochables. S'ils nous critiquent parce que nous râlons continuellement, nous murmurons, et nous contestons contre la direction, contre les collègues, etc., eh bien là nous ne sommes pas irréprochables. C'est ce que notre texte dit ici. Et donc dans ce sens, l'esprit de murmure et de contestation anéantit l'efficacité du témoignage qu'on peut avoir pour Christ, parce qu'on n'est pas irréprochable, on n'est pas pur comme il nous le commande ici. Le sens de mot pur, c'est l'idée d'un vin qui n'a pas été dilué, hein, ne pas être mélangé. On est un coup comme ça et puis l'autre coup comme ça, à l'église comme ceci, dans le monde comme cela. Mais non, on est un, on est simple, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc ici, quand on n'est pas, on agit avec un esprit de murmure et de contestation, eh bien, on devient un obstacle à notre propre témoignage aussi au sein du monde. Ainsi, ceux qui murmurent ne présentent pas au monde une réaction différente face aux frustrations de la vie. C'est ça qui est le témoignage. Comment, en fait, ce qui est en jeu ici, c'est pas ce que je fais, mais c'est comment je réagis face aux frustrations et aux contrariétés de la vie. Qu'est-ce qui sort de moi-même quand les circonstances sont difficiles? Quand j'ai un collègue qui est compliqué à gérer, quand j'ai des enfants qui sont... Qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort provient du caractère. Et c'est là que l'on va chercher le témoignage. Rappelez-vous de l'apôtre Paul en prison, dans l'épître de Philippiens. Il dit qu'il y avait des gens qui voulaient lui faire du tort. Il dit, mais peu importe. Il dit, Christ est prêché, tout le monde sait que c'est pour Christ que je suis dans les miens. Il avait une attitude, un caractère qui montrait que Christ vit en lui. Et c'est exactement cela qui est en jeu ici. Lorsque je murmure et que je conteste, je suis en train de dire que j'ai le même caractère que les autres. Et ce n'est pas un autre esprit qui m'anime. Vous comprenez cela, je pense. Et même la Bible dit que c'est un caractère impie. Jude dit ceci. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire prendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. C'est ce qu'il dit au verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Vous voyez ça? Ce sont des personnes qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Et il décrit l'impiété, une caractéristique de l'impiété par les murmures et le fait de se plaindre de son sort. Donc celui qui murmure et qui se plaint, il porte les marques de l'impie. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas être, hein, et que cela crée un obstacle à son témoignage. Que l'enfant de Dieu qui murmure, qui se plaint et qui conteste, eh bien, il crée un obstacle à son propre témoignage. Parce que c'est une marque caractéristique, selon Jude, de l'impiété. Ceux qui murmurent et ceux qui se plaignent de leur sort. Et puis quatrièmement, eh bien, l'esprit de murmure aussi, et de contestation déshonore Dieu. L'apôtre Paul montre cela. Donc l'esprit de murmure et de contestation est universellement répandu. L'esprit de murmure et de contestation est un obstacle à notre sanctification. L'esprit de murmure et de contestation, ceci en a dit, est un obstacle à notre témoignage. Il anéantit l'efficacité de notre témoignage. Mais l'esprit de murmure et de contestation et surtout déshonore profondément Dieu. Regardez encore notre verset 15, l'apôtre dit ceci, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. » Il ne dit pas qu'il faut agir sans murmure et hésitation pour être des enfants de Dieu. Non, mais il dit que parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous devez agir ainsi. Vous devez agir pour manifester le caractère de celui qui est votre Père. Donc en murmurant, en faisant les choses en murmurant et en contestant, vous déshonorez Dieu. Et quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, la Bible nous montre que ça va encore bien plus loin que ça. C'est que il montre que les murmures et les contestations traduisent une rébellion contre Dieu. C'est une rébellion ouverte contre Dieu. Celui qui murmure et qui conteste dans ce qu'il fait est en rébellion contre Dieu. Et je vais vous montrer cela avec quelques exemples dans l'histoire du peuple d'Israël. Si vous lisez, prenez Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Si. Exode chapitre 16. Alors il y a beaucoup de passages qu'on pourrait lire là-dedans. On va en choisir quelques-uns. Exode chapitre 16. Déjà en chapitre 15, verset 24, on voit ce peuple qui murmure. Et il dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous ? Ici. Et puis chapitre 16, verset 2, il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils disent, à la fin du verset 3, car... vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir, pour faire mourir de faim toute cette multitude. Voilà, donc ils se plaignent et la Bible dit ici que c'est contre qui ? Moïse et Aaron. Et notez au verset 7 et 8 de ce même passage ce que Moïse dit. Il dit, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures. Contre qui ? Contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? Verset 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous avez proférés contre qui ? Contre lui. Donc quand on murmure contre une circonstance ou contre quelqu'un, en fait, en réalité, on murmure contre Dieu. Et je peux dire que tout murmure contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit est un murmure, une rébellion contre Dieu. C'est ce que ces passages nous montre ici. Moïse affirme que les murmures contre lui et contre Aaron ne sont pas en fait des murmures contre lui et contre Aaron. En fin de compte, ce sont des murmures contre Dieu. Et on pourrait dire à ce stade, Moïse, tu exagères un peu. On peut murmurer quand même contre quelque chose ou contre quelqu'un sans que ce soit vraiment contre Dieu. Dans son histoire, on dit, c'est pas à Dieu que j'en veux, c'est à lui que j'en veux. C'est lui qui... Donc on peut... Non, Moïse dit non. La parole de Dieu dit non. Donc que quand on murmure contre Dieu. Ça c'est ce que Moïse dit. Mais écoutez ce que Dieu lui-même dit. Regardez Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, verset 27. Lorsque le peuple arrive au pied de... au seuil de Canaan et qu'ils refusent de rentrer en Canaan parce qu'ils disent, ouais, on a vu des géants, des gens qui vont nous détruire, et ils reviennent, ils ne veulent pas prendre possession du pays comme Dieu le leur demande. Eh bien, regardez ce qui est dit au verset 27. C'est Dieu qui parle. Il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre qui ? Contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurait contre moi. Cette fois, c'est Dieu lui-même qui parle. Et il dit que les murmures qu'il a entendus, c'était pas des murmures contre Moïse et contre Aaron, c'était des murmures contre Dieu lui-même. Regardez le verset 29, ce qu'il dit. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Regardez verset 35. Ici, il dit encore, moi l'Éternel j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Vous voyez, Dieu dit que quand vous avez murmuré contre Moïse et Aaron, contre toutes les circonstances que vous avez eues, eh bien c'est contre moi que vous avez murmuré. C'est contre moi que vous vous êtes réunis et vous avez murmuré ici contre moi. Tout murmure, donc contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit, est une rébellion contre Dieu lui-même. Donc on peut dire, c'est contre mes parents que je murmure. Ou c'est contre la SNCF que je murmure. Ou c'est contre l'administration française que je murmure. Ou c'est contre l'Église que je murmure. Ou c'est contre les pasteurs que je murmure. Ou c'est contre les membres de l'Église que je murmure. Mais si nous murmurons, peu importe à nos yeux contre qui nous le faisons, la Bible affirme que c'est contre Dieu que nous murmurons. Et Moïse a raison, donne raison, si vous voulez, à cela. Mais quelle raison il donne ici à cela? Eh bien, il dit, car, verset Exode, je vais vous lire, Exode chapitre 16, verset 7, il dit, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? C'est contre Dieu que vous avez murmuré, parce que qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Et encore en Nombre chapitre 16, verset 11, il dit la même chose. Il dit, c'est à cause de cela que toi et toute la troupe, vous vous êtes assemblés contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? En fait, Moïse dit, les choses et les personnes ne sont pas suffisamment puissantes pour que vous puissiez murmurer contre elles. Les murmures n'ont pas pour cible des impuissants, jamais. Ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et Moïse dirait en nous regardant, que sont les embouteillages pour que vous murmuriez contre lui? Qu'est-ce que la SNCF pour que vous murmuriez contre la SNCF? Qu'est-ce que le train qui arrive en retard pour que vous murmuriez contre le train qui arrive en retard? En fait, vous murmurez contre Dieu. Vous murmurez contre celui qui a la puissance de changer les choses et qui ne le fait pas à votre guise. C'est exactement ce que c'est que le murmure. Dieu a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Il a le pouvoir de faire arriver le train à l'heure. Il a le pouvoir de dissiper les embouteillages, de faire que le feu ne reste pas rouge trop longtemps, d'empêcher l'augmentation des taxes sur le carburant, d'ouvrir une caisse supplémentaire au supermarché, de changer le caractère du patron, d'éviter que je travaille avec ce collègue que je ne peux pas supporter, de transformer mon mari, de rendre mes enfants gentils, d'augmenter les capacités culinaires de ma femme. Il peut faire tout ça. Et il ne le fait pas. Alors je murmure. Je murmure contre qui? Contre ma femme? Contre le patron? Contre la caisse fermée? Non. Je murmure contre Dieu qui a le pouvoir de faire les choses et qui ne le fait pas. Et le chrétien qui murmure, il doit savoir ce que la Bible dit. C'est quand il murmure, c'est contre Dieu. Dieu entend ce moment et Dieu considère que c'est contre lui que nous avons murmuré. Je critique son action souveraine sur toutes choses et je mets en doute la bonté quand je murmure. Par conséquent, l'esprit de murmure et de contestation déshonore Dieu. Parce que c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Comme un puritain disait, l'esprit de murmure accuse le bien fondé de la justice de Dieu. C'est injuste que les choses se passent ainsi. C'est injuste qu'un tel ait une chose et puis pas moi. Dieu peut changer ses choses. Pourquoi ne le fait-il pas? Alors, je respecte. Dans mon cœur, je ne dis pas que c'est contre Dieu. Mais dans la réalité divine, c'est contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Les gens agissent comme ça. Il dit ici, dans le passage que nous avons lu. Il dit, cette méchante génération va disparaître parce qu'elle a murmuré contre moi. Dieu juge sévèrement le murmure. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, il ne murmurait pas comme... Ils ont murmuré, ils ont été détruits par l'exterminateur. Et la méchante génération n'est pas rentrée dans le pays de Canaan. Personne de cette génération n'est rentré dans le pays de Canaan. C'est dire combien les choses sont graves. Et donc, nous devons être très attentifs à ce que l'apôtre Paul enseigne ici. Et demander à Dieu la grâce de faire toute chose, tout ce que nous faisons, sans murmurer. Ni hésitation. Que ça reste dans nos cœurs. Dans la prochaine situation que nous allons vivre au feu rouge, que nous allons arriver tout à l'heure. Que Dieu nous donne de vivre et d'agir sans murmure ni hésitation. Avec le collègue que je vais retrouver demain, que voilà, ça passe pas, on n'a pas d'atome crochu. Eh bien, que Dieu m'aide à agir à son égard sans murmure ni hésitation. Je termine avec quelques mots de conclusion. La foi est avant tout quelque chose d'éminemment pratique. Ça, ça vous montre ça. L'apôtre Paul dit, mettez en œuvre votre salut. Ce n'est pas des grands principes théoriques. il montre que cela doit se mettre en pratique précisément dans les domaines particuliers, quotidiens de notre vie. Deuxièmement, je voudrais souligner ceci, c'est très important. Dieu recherche le caractère et non le service. Pas seulement le service. Dieu recherche le caractère et pas seulement le service. L'apôtre Paul dit, faites toutes choses. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Il dit toutes choses. D'accord ? Mais il souligne la manière avec laquelle on doit faire la chose. Vous voyez ça ? Il dit, faites toutes choses sans murmure ni contestation ou ni hésitation. Parce que ce que Dieu recherche, c'est le caractère avant tout. C'est pas le service. Nous, nous focalisons sur le service. Dieu se focalise sur le caractère de ses enfants. L'hospitalité exercée avec murmure, c'est l'hospitalité. Le billet de 100 euros donné au frère avec murmure, c'est un billet de 100 euros. Il ne va pas valoir 50 euros parce que j'ai donné avec murmure. La valeur de la chose demeure, si vous voulez. D'accord ? Donc, on peut faire des choses qui dans leur valeur, demeurent bonnes, alors que l'attitude, le caractère qui a été utilisé pour le faire est un mauvais caractère. Il y a des gens qui donnent des fortunes, mais parce qu'ils sont égoïstes. Ils veulent montrer au monde entier qu'ils ont donné pour que la gloire leur revienne. Mais les millions, c'est toujours des millions. D'accord ? Ça ne va pas changer la valeur. Ce qui intéresse Dieu, c'est vraiment la manière avec laquelle nous faisons les choses. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais la manière avec laquelle nous les faisons. La Bible dit que Jésus s'est assis au fond du temple, pas pour voir ce qu'on mettait dans le tronc, Marc chapitre 12, verset 41, mais il dit, il s'est assis pour voir comment on mettait de l'argent dans le tronc. Imaginez Jésus assis au fond de la salle aujourd'hui, et puis il nous a vu mettre dans le panier, il a entendu ce que nos cœurs ont dit quand notre main est entrée dans la poche et puis qu'elle a lâché, dans le tronc. Et c'est ça qu'il regarde. Il ne regarde pas la quantité, il regarde le cœur. Et les murmures sont la réponse aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et donc, comme c'est une réponse, quand je fais quelque chose avec murmure, je réponds d'une certaine manière. Et donc, cela traduit un problème de caractère. Et donc, l'exhortation de Paul porte sur la sanctification ici de notre caractère. C'est pour cela que dans le choix des diacres et des anciens, si vous lisez 1 Timothée chapitre 3, verset 1, la Bible ne dit pas, si quelqu'un veut être diacre ancien, qu'il soit de niveau intellectuel ceci, qu'il ait fait tant d'études. Non, il dit qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, etc. Il donne que des caractères. Pas des compétences physiques et intellectuelles. Que des caractères, chers frères et sœurs. Parce que Dieu, ce qu'il regarde, cherche en nous, c'est le caractère. Et puis, aussi, je voudrais dire que la qualité de notre témoignage pour Christ doit faire l'objet de nos pensées si nous voulons progresser dans la sanctification. Ici, l'apôtre Paul dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez purs et irréprochables au milieu de cette génération. C'est-à-dire, je dois avoir comme perspective pour être un bon témoignage dans ce que je fais. Si je garde, si j'ai à cœur le témoignage, la qualité du témoignage que je dois avoir pour Christ, je fais attention quand je suis dans les situations à ne pas agir comme le monde agit. Mais à demander l'aide du Seigneur pour qu'il m'aide à agir comme il veut que j'agisse. Alors, comment progresser dans ce domaine, chers frères et sœurs ? Eh bien, prions comme le faisait David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Confessons nos péchés. Repentons-nous et demandons au Seigneur son aide en nous souvenant que c'est Dieu qui produit en nous avec efficacité le vouloir et le faire, selon le verset 13 du chapitre 2 de Philippiens. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, murmurer contre l'autre, eh bien pardonnez-vous réciproquement, et de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et donc ce verset semble supposer que les raisons de se plaindre peuvent exister, mais que le chrétien n'a jamais raison de se plaindre. Les raisons de se plaindre peuvent exister, mais le chrétien n'a jamais raison de se plaindre. Il doit chercher la solution ailleurs. Il doit considérer Christ et le pardon que Christ lui a accordé. Et plutôt que de se plaindre, eh bien, ils doivent se pardonner mutuellement. Voilà comment on peut agir tel que le Seigneur nous le commande. Il y a des sujets qui sont propices certainement à la plainte dans certains cas, mais il ne faut pas se plaindre, mais pardonner réciproquement, se souvenant comment Christ nous a pardonné. C'est une dernière chose que j'ajoute. Dernière chose. C'est que souvent, nous regardons à nos problèmes ou nos circonstances. Et pour nous, le problème, c'est le problème et les circonstances. Mais n'oublions pas que ce que Dieu fait, il utilise les circonstances pour travailler en nous. Et c'est en nous qu'il faut chercher s'il n'y a pas de problème à résoudre. Personnellement, chacun. Ce ne sont pas les circonstances qui sont nos problèmes. C'est comment je réagis aux circonstances, comment je réponds aux circonstances. Autrement dit, c'est moi et mon caractère. Et qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers cette situation difficile? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Peut-être que j'ai besoin d'apprendre la patience. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à aimer. Peut-être qu'il me met dans des situations un peu plus difficiles parce que j'ai besoin d'apprendre à pardonner. J'ai besoin d'apprendre à parler avec douceur. J'ai besoin d'apprendre à lutter contre la colère. Donc c'est cela qui est important. Donc c'est pas la situation en elle-même qui est le problème. Et nous sommes focalisés sur les situations. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Il y a ci, il y a ça. Mais on regarde jamais où Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Il veut que nous apprenions aussi à regarder à nous-mêmes et que dans l'humilité devant lui, nous cherchions à savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Montre-moi où je dois progresser. Comment je dois marcher sur ce chemin de sanctification? Où est-ce que je dois œuvrer à ma propre sanctification? Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et pour ce problème si commun que nous avons tous avec les plaintes et le murmure. Nous voyons comment cela te dégénère, comment cela va, quand on agit ainsi, va à l'encontre de ce que tu es en train d'accomplir dans notre vie. Oui, Seigneur, c'est notre désir en tant que tes enfants d'être des flambeaux et de briller au milieu de ce monde afin que d'autres soient rassurés en toi. Donne-nous un cœur soumis afin que nous agissions comme tu nous le commandes ici. Et donne-nous d'être attentifs pour faire toutes choses sans murmure ni contestation, afin d'être pur et responsable, tes enfants, irrépréhensibles. Au milieu de cette génération perverse et corrompue, dans laquelle nous brillons comme des flambeaux dans ce monde. Nous avons besoin de toi, Père, pour le faire. Aide-nous, nous t'en prions. Pour la gloire de ton nom. Amen.